Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonjour à tous, Bernard Aboif au micro, et on se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive, et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Bonjour Rav Eli Lemel, Shabbat Shalom.
Bonjour et Shabbat Shalom.
Rav Eli Lemel, on continue à survoler notre parashat de la semaine, et donc là on arrive à Vayakel Pekoudé. En fait c'est deux parashat qui souvent vont ensemble. Peut-être même le contraire, je me lance où là dans un tunnel, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Peut-être c'est une seule paracha en fait et qu'on la coupe, c'est pas qu'on la colle. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Vous voulez intervenir, vous d'ailleurs, sur quelque chose de très original, qui n'est pas forcément très central dans toutes les études sur les parachiotes, sur la Torah. C'est un personnage qui s'appelle Betsalel. Betsalel, c'est celui qu'on a chargé, que Moïse a chargé, de faire le tabernacle, de faire toute une série de choses, parce que c'est un artiste. C'est un homme qui a... Il a ce talent. Il a ce talent d'artiste. Et là, c'est très intéressant, parce que c'est très rare qu'on s'attache sur cette personnalité-là. Or, on a quelques éléments de qui il est véritablement et pourquoi il a été choisi. Alors, on vous écoute avec beaucoup d'intérêt, Rav Eli Lemel.
Exact. On a donc dans la paracha, donc on est ici quand même dans le texte dans lequel on va conclure un petit peu toute l'histoire de la construction du Mishkan. Hein. C'est une histoire qui a pris fort longtemps. On en a parlé vraiment sur des parachiotes et des parachiotes Vayakel et Pekoudé qui sont deux parachiotes distinctes, mais suivant les aléas du calendrier, eh bien on les met ensemble ou pas. Et là, on reprend à nouveau. On reprend à nouveau véritablement tout ce qui a eu lieu dans cette construction du Mishkan. Et là, on va nous présenter donc quelqu'un dont on avait entendu parler déjà précédemment, qui est donc un personnage qui s'appelle Betsalel. Betsalel, on va dire que c'est, je vous prie de m'excuser, Betsalel, c'est le maître d'œuvre, celui qui a été choisi par HaKadosh Baruch Hu, par le créateur de l'univers. Et alors, qui est Betsalel d'abord? C'est Betsalel ben Uri ben Hur le Maté Yehuda. Betsalel ben Uri ben Hur. Betsalel, en vérité, c'est un arrière-petit-fils de Myriam. Donc, il appartient à la famille. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Betsalel, à quel âge? Eh bien, il a 13 ans. C'est une discussion, d'ailleurs, entre les Rishonim. Certains pensent que le jour où il commence à s'occuper du Mishkan, il vient d'avoir 13 ans. Certains disent qu'il va avoir 13 ans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est aujourd'hui ce qu'on aurait appelé un tout jeune homme qui va avoir cette responsabilité colossale de mettre en place et d'organiser véritablement tout le Mishkan avec tous ses ustensiles. Alors, bien sûr, c'est qui Betsalel, surtout au niveau de sa particularité, de sa spécificité? Eh bien, Moshe dit « Vayomer Moshe ben Israël, Rou kar Hashem b'shem Betsalel ben Vayomale oto Ruach Elokim ». Il dit « Regardez, c'est Dieu qui a appelé Betsalel ». Pourquoi d'abord Moshe dit « Regardez, Dieu a appelé Betsalel » Eh bien, parce que, évidemment, on l'a accusé de népotisme dans le peuple d'Israël. Vous pouvez bien vous douter qu'il y a certaines personnes qui ont dit « Oui, bien sûr, il faut un maître d'œuvre pour le Mishkan ». Et Moshe, bien sûr, prend de la famille. Avec quand même ce petit bémol, si on réfléchit, c'est que Betsalel, c'est l'arrière-petit-fils. Il y a un petit-fils, Betsalel ben Uri. Il y a son père, Uri, qui doit avoir la quarantaine. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris le père? Pourquoi le fils? Et Moshe dit bien, eh bien, Kora Hashem Beshem. Hashem a appelé Betsalel parce que Betsalel a en effet des capacités très particulières. Mais quelles sont ses capacités? Pas juste qu'il est un orfèvre, pas juste qu'il sait parfaitement travailler de ses 10 doigts, mais « Vayemale oto ruach elokim bechochma ubebina ubedat » parce que Dieu l'a rempli de son esprit, de sagesse, de connaissance et de compréhension. Donc, tout d'abord, Betsalel, eh bien, rappelons-nous que lorsque Moshe lui a donné l'ordre de construire le Mishkan, quand vous regardez les textes auparavant, Moshe d'abord lui a dit « Betsalel, eh bien, tu vas créer donc les ustensiles du Mishkan. » Et Betsalel se tourne vers Moshe et lui dit « Mais Moshe, c'est pas logique. Avant de créer les meubles, il faut peut-être créer le contenant. » avant de mettre en place le contenu. Et il faudrait peut-être que tu me donnes d'abord l'ordre de savoir comment est-ce qu'on va construire le cadre. Et Moshe de lui dire, dit le Talmud dans le traité de Brachot, « Shema betzel kel hayita ». Tu as été betzel kel à l'ombre de Dieu, car en effet, Moshe, entre guillemets, se rappelle que à la base, l'ordre divin était d'abord de construire le Mishkan, puis les ustensiles. Et là, il a commencé en faisant le contraire. Betzel kel, tu as perçu, tu as compris véritablement ce qu'était la parole divine. Mais surtout, 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 eh bien, on parle de cette chorma que Dieu va lui donner, cette sagesse. Alors, le Talmud, toujours dans Brachot, nous dit au nom de Rabbi Yochanan, En akadosh baruch hu noten chorma et la mishyesh bo chorma. Dieu ne donne de la sagesse qu'à celui qui possède de la sagesse. Pourquoi? C'est un verset dans Daniel qui nous dit Yahiv chorchmata la hakimin. Dieu donne la sagesse au chachamim, au sage. Et évident, ici, on va se poser une question. Et cette question, elle est laquelle? Eh bien, c'est une question qu'une matrone romaine pose à Rabbi Yossi bar Chalavta. Elle lui a dit, mais je ne comprends pas. Dieu donne la sagesse à ceux qui sont déjà sages, mais au contraire, il devrait donner de la sagesse à ceux qui sont bêtes, à ceux qui ne réfléchissent pas. Et Rabbi Yossi bar Chalavta lui a dit, ma fille, puis-je me permettre de te poser une question à mon tour? Demain, deux personnes viennent t'emprunter une forte somme d'argent. Une des personnes est quelqu'un qui est un homme d'affaires, mais qui a besoin, là, pour l'instant, dans sa trésorerie, d'une somme d'argent. Et puis l'autre, eh bien, c'est quelqu'un que tu vois traîner dans les rues, un guéluron, n'est-ce pas? Mais à qui le prêtes-tu? Et elle lui répond, évidemment, je le prête à la personne qui en a les moyens, parce que je sais très bien qu'il va me le rendre, alors que l'autre, de par son comportement, j'ai très peur, eh bien, qu'il ne sache pas quoi en faire et que je ne retrouve pas mon argent. Il lui dit, eh bien, si tes oreilles pouvaient écouter ce que ta bouche dit, donner de la sagesse à quelqu'un qui a décidé de ne pas réfléchir dans sa vie, eh bien, c'est au fond la jeter quelque part à la poubelle, parce que va-t-il faire de ce supplément d'intelligence s'il n'a pas déjà décidé d'utiliser l'intelligence qu'il possédait pour construire et pour avancer? Mais en vérité, ça va beaucoup plus loin, puisque Reshit Chochma Yirat Hashem, nos maîtres disent que les préambules de la sagesse, ça s'appelle Yirat Shamaim, la conscience de Dieu, que certains traduisent, pardonnez-moi, par la crainte de Dieu, mais Yir'a vient de la racine Ro'e. Ro'e, ça veut dire voir, celui qui vit dans la conscience qu'il y a un créateur de l'univers. Et peut-être que c'est ça la lecture que l'on va faire ici de ce texte, Yahiv Chochma Lachachamim, Dieu donne de la sagesse à ceux qui sont sages. Or, cette première sagesse, elle provient exclusivement de l'humain. Parce que nos maîtres disent « Hakol bide shamaim, chutz mirat shamaim ». Tout provient du créateur de l'univers. Tout provient de lui, notre sagesse, notre intelligence, sauf une chose, « Yirat shamaim ». « Yirat shamaim », c'est la conscience que nous avons de la présence de Dieu dans l'univers. Et ça, c'est quelque chose qui est au fond extrêmement important et que Betzalel possédait. Betzalel, en effet, avait cette Yirat Shamaim, avec cette conscience de Dieu présente chez lui de manière permanente. Et donc, il méritait de recevoir ce supplément de sagesse parce qu'il savait quoi en faire, parce qu'il savait comment l'utiliser. Et bien sûr, quelle va être son utilisation première? Et pour mieux comprendre cela, eh bien, je vais vous relater une histoire à propos d'un maître qui s'appelait Rav Chaim Volojine. Rav Chaim Volojine a créé une grande yeshiva qui s'appelait la yeshiva de Volojine. Et bien entendu, il avait besoin de fonds pour pouvoir faire fonctionner sa yeshiva. Il avait une personne qui chaque année partait. Et cette personne avançait en âge. Et Rav Chaim Volojine a dit « Peut-être maintenant que tu peux prendre une petite carriole pour te déplacer parce qu'à pied, ça devient difficile. » Et donc, cette personne, eh bien, la yeshiva lui a acheté une petite carriole. On aurait dit aujourd'hui, comme il y avait à l'époque une petite Renault 5, le Rav Gershon d'Aix-les-Bains, qui collectait entre autres de l'argent pour Aix-les-Bains, qui a fait un travail colossal en France, lui, ne s'est jamais séparé de sa deux chevaux qui était devenue une voiture légendaire. Il n'avait pas besoin de plus. Et donc, un jour, il est arrivé chez une personne qui avait l'habitude de lui donner une somme importante. Et puis, celui-ci, eh bien, donnait une somme qui était beaucoup moins. Alors après, Mivologine, un jour, est passé chez cette personne et a voulu comprendre pourquoi. Et lui, il lui a dit, écoute, moi, jusqu'à présent, je donnais de bon cœur, mais quand je vois qu'il arrive avec sa carriole et ses chevaux, eh bien, pourquoi je devrais donner de l'argent pour une carriole et des chevaux. Moi, je donnais pour la yeshiva. Et à ce moment-là, après, Mivolojin lui a dit la chose suivante. Le Talmud nous dit que Betzalel Haya Yodea, Betzalel, de par sa sagesse immense, savait parfaitement comment organiser les lettres avec lesquelles Dieu avait construit l'univers pour pouvoir en effet procéder à la construction du Mishkan. Il ne faut pas oublier que la construction du Mishkan, c'est, dit le texte, Kol Chacham Lev. C'était des personnes qui avaient une sagesse, mais une sagesse du cœur. Il y avait quelque chose qui, au-delà de l'artisanat, était présent. Et Betzalel était le plus grand de tous. Et dire après Mivolojin, la force de Betzalel était quoi ? Était d'identifier quelles étaient les intentions qu'avaient eues les donateurs au moment où ils offraient l'or, l'argent, le cuivre, le bois. Et plus leur intention était pure, plus Betzalel savait parfaitement à quoi utiliser les matériaux, pour quelle partie du Mishkan. Pour des parties comme la menorah, ou alors peut-être le kior. Il avait réussi à percevoir l'intention qu'avaient eue les personnes qui avaient donné pour savoir utiliser ce que j'appellerais le matériau le plus raffiné spirituellement par rapport aux lieux les plus élevés du Mishkan. Et après Mivolojin dit à cet homme, c'est la même chose. Si ton intention est la plus belle possible, eh bien sache que ton argent ira là exactement où il doit agir. Betzalel, c'est donc celui qui non seulement est un artisan hors pair, mais surtout celui qui a cette chochmat lev, c'est-à-dire une intention des plus pures qui soit, mais surtout, surtout, cette notion de yirat shamaim, cette notion de vivre dans cette conscience de Dieu qui est l'élément qui nous permet de recevoir une sagesse supplémentaire parce que nous saurons quoi en faire. Et il peut avoir 13 ans, ce n'est pas pour autant qu'il ne le mérite pas. Pourquoi ? Eh bien, on connaît cet auteur qui disait « la valeur n'attend point le nombre des années », mais quelque part, plutôt l'individu inscrit cette vision du monde dans cette existence, plus il aura la possibilité de recevoir ce qu'on appellerait un influx spirituel extraordinaire qui lui permettra par la suite de réaliser un projet qui va au-delà du temps. Voilà ici, en quelques mots, très rapidement, qui était ce personnage de Betzalel tel que les maîtres du Talmud nous le décrivent, Betzalel, à l'ombre de Dieu, 13 ans, cette chorma extraordinaire qui provient de Sayirat Shamaim, cette capacité de savoir utiliser les matériaux le mieux possible, exactement là où ils doivent être, utilisés, afin que le Mishkan puisse véritablement occuper toute la place qu'il doit avoir à l'intérieur du peuple d'Israël.
Rav Eli Lemel, c'est vraiment, je disais, un cours original, mais je vais vous faire une confidence, c'est la première fois que j'entends quelqu'un traduire Yirat Hashem autrement que par la crainte. Toute ma vie, entendu parler crainte. On m'avait par contre expliqué quelque chose en vous écoutant, c'est peut-être ça qu'on a voulu me dire, qu'il y a une forme de crainte qui est pour les enfants, c'est généralement celle à laquelle moi, par exemple, j'accède, c'est pas très haut. J'ai peur, si je fais ça, il y a une punition. La vie, elle est faite comme ça. Il y a des punitions, il y a des récompenses. Il y a des... Si je vais être moche avec un animateur de la radio, ben, il y a des conséquences. Et si je vais être beau avec un animateur de la radio, il y a des conséquences. Bref, c'est comme ça, ça s'appelle la ira. Mais il y a une autre ira. C'est celle que, vous savez, des fois, dans certaines situations très rares, c'est tellement beau que ça fait peur. C'est peut-être ce mot-là que vous avez voulu décrire. Est-ce que je me trompe ? C'est des fois, par exemple, je sais pas, moi je suis pas allé aux chutes du Niagara, mais pas. C'est tellement que ça fait peur. Ça nous dépasse tellement que c'est quelque chose de l'ordre de la peur. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ?
Alors, j'entends parfaitement ce que vous dites. C'est ce qu'on appelle Yirat Aromemut. C'est la crainte devant la grandeur. C'est-à-dire le moment où l'individu se sent, comme disait Hubert Reeves, une poussière d'étoiles, mais en même temps, il doit se rappeler qu'il est le couronnement de la création. Et c'est ça au fond, c'est-à-dire sentir cette petitesse face à l'immensité du Créateur et en même temps savoir que le Créateur attend que nous nous tenions devant lui. Cet état de conscience, c'est ça qui permet à quelqu'un en effet d'agir comme Dieu l'entend dans cet univers.
Rav Eli Lemel, je vous remercie et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Me should
nous sommes en ligne à Jérusalem avec Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai Biton. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom ou Mevorach.
Rav Mordechai Biton, on continue notre réflexion sur notre paracha, Vayakhel Pekoudé. Et alors, donc, ce sont des parachiotes qui parlent de contes. D'ailleurs, on est toujours surpris quand on lit ces textes, à tel point c'est important de compter les brigades, compter les peuples, compter les familles. Souvent, on revient sur cette idée, et en plus que c'est Hachem qui compte. Enfin bref, c'est souvent très surprenant. Et d'ailleurs, c'est sur ça que vous voulez intervenir. Vous voulez dire que, de manière cachée, derrière ces textes, qui sont un peu abrupts à lire, il y a l'idée de perfection. Et là, évidemment, on vous écoute avec beaucoup d'intérêt.
Attention, c'est effectivement, les comptes dont on passe ici, c'est l'argent. C'est-à-dire que c'est ici, on rapporte exactement la manière dont l'argent a été utilisé, à quoi il a servi, à quoi a servi quelque chose. Et donc, en apparence, on va dire, Vayakhel et Pekoudé sont des parachats qui nous expliquent donc la manière dont ont été utilisés tous les matériaux, la somme, l'argent, etc., comme si en quelque sorte on terminait cette histoire de la construction du tabernacle avec des comptes financiers, une présentation d'un bilan comptable, et en même temps la manière dont les choses ont été faites. Mais quand on rentre un petit peu plus dans la paracha, on voit trois éléments qui sont fondamentaux. D'abord, on nous parle de Betzalel, de Aholiav, les deux personnages qui vont conduire l'érection du tabernacle, la construction du tabernacle, et également tous ces gens qui vont venir et qui n'étaient pas forcément à proprement parler des artisans, mais qui étaient simplement ce qu'on appelait des Chacham Lev. Et là, on est sur la séquence perfection numéro 1. Qui sont ces gens-là qui vont venir construire le Beth Amidash? Ce ne sont pas des artisans, mais ce sont des gens qui vont devenir des artisans. Pourquoi? Parce qu'ils ont une Chorma, ils ont une sagesse qui est logée dans le cœur. Le cœur, c'est le centre énergétique. En quoi ces gens-là sont parfaits? Ils sont parfaits dans le fait qu'ils sont parfaitement ignorants de l'artisanat. Mais ils sont parfaits dans leur volonté de vouloir construire le Beth Amikdash coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est la première chose qui apparaît tout au long de cette paracha, de ces deux parachas qu'on va lire en même temps, c'est que tous ceux qui viennent, on nous explique quels matériaux ils vont utiliser et on nous donne les comptes du Beth Amikdash, mais en même temps, on nous dit que ceux qui vont le construire sont des gens qui sont parfaitement imparfaits. Ils n'étaient pas des artisans, mais ils étaient parfaits dans une chose. La chorma, la sagesse du cœur, c'est la sagesse de la volonté de vouloir participer à la construction du Mishkan. Ça, c'est la première chose. Deuxième perfection, c'est celle qui apparaît dans Pekoudé, où là, on nous raconte que Moshe Rabbeinu va accomplir à la lettre presque qu'Hachem lui a ordonné. On va nous le répéter, Kacher Tziva Hachem. On va le répéter tant et tant et tant de fois que Moshe Rabbeinu, Moïse, accomplit exactement ce qu'Hachem lui a donné. Et là, c'est perfection, séquence perfection numéro 2. Qu'est-ce que c'est la faute du Vaudor? La faute du Vaudor, ça a été de prendre l'initiative de créer, en dehors de toute relation avec Hachem, un lieu qui aurait eu la prétention d'être un lieu dans lequel on pouvait servir Hachem. Or, c'est là le fond de la faute du Vaudor. C'est que servir Hachem, c'est accomplir sa volonté à lui et pas la nôtre. Et à partir du moment où on accomplit notre volonté, ben, en quelque sorte, on travestit la volonté d'Hachem et on crée une religion de substitution. Là, quand Moshe Rabbeinu va construire ce lieu qui est un lieu de service d'Hachem, un lieu de rencontre, un lieu de dibour, de parole avec Hachem, il va le construire selon ce que Hachem a demandé. Il va être parfait, lui et l'âme Israël, dans la construction donc du Beth Amikdash. Séquence perfection numéro 3, quand tout ce récit se termine, la Torah vient et nous dit la chose suivante, « Kianan Hachem à la Mishkan, la nuée d'Hachem se pose sur le Mishkan, Yomam, le jour, Ve'esh Tielaïla, il y avait un feu qui éclairait la nuit, aux yeux de l'ensemble de la maison d'Israël, et pour donc les éclairer tout au long de leur voyage. » En fait, au moment où les Bnei Israël ont terminé la construction du Mishkan et attendent donc l'inauguration du Mishkan, ils ont parfaitement intégré ce que Hachem leur a demandé. Et donc maintenant, la présence d'Hachem peut parfaitement se poser dans le peuple juif. Et là, on est au sommet de la perfection, à la fois pour l'aventure du peuple juif et même pour l'humanité tout entière. Parce qu'au fond de l'affaire, une des raisons pour lesquelles le Ramchal, Rav Moshe Chaim Lifshitzhatou, nous dit pourquoi le monde a été créé, c'est pour qu'Hachem puisse se poser dans le monde, pour que la présence d'Hachem puisse se poser dans le monde. C'était ce qui était prévu pour Adam Harishon. Puis ensuite vient l'aventure du peuple juif qui commence avec Avraham Avinu, l'Égypte, la sortie d'Égypte, la construction, le don de la Torah et la construction du Beth Amikdash. La présence d'Hachem est à nouveau là. Quand Moshe Rabbeinu va prier après la faute du Vaudor, il va prier entre autres pour que la présence d'Hachem soit visible dans le peuple juif. Et ben, au moment où on termine Parachat Pekoudé, on nous dit la présence d'Hachem, elle était là. On est revenu à ce niveau de perfection. On a à nouveau une chance de tikkun, de réparation et d'achèvement de l'histoire comparable à celle qui s'est passée au moment où on a reçu la Torah. Et là, on va en parler la semaine prochaine avec ce qui s'est passé avec Nadav Aviou. Patatras, à nouveau, tout va tomber. Donc en fait, dans cette paracha, derrière l'énoncé des chiffres, ce qui nous est dit, et ce qui accompagne toute la paracha, c'est qu'Am Israël est revenu à un niveau de perfection dans la relation avec Hachem. C'était ça qui nous est dit. Alors quel enseignement, nous, on peut en tirer? En quoi tout ça nous intéresse? C'est un fait historique, un fait spirituel qui a concerné le peuple juif à un moment. Tout simplement que cette possibilité, elle n'est pas née en un jour. Où est-ce qu'elle est réapparue, cette possibilité? Dans la faute du veau d'or. Là où les Bnei Israël ont chuté, comme on l'a dit la semaine dernière, ça a été le premier œcuménisme de l'histoire. Où là, tout un peuple se tait face à une minorité de gens qui font n'importe quoi. Et donc finalement, la faute devient finalement, par le silence collectif et par la participation de certains, donc une faute de l'ensemble du peuple juif. En fait, ce qui a germé dans l'histoire du veau d'or, ça a été le concept même de Teshuvah. Il faut savoir que la Teshuvah n'est possible et elle ne peut avoir d'effet que parce que dans la Torah, il y a une mitzvah positive de faire Teshuvah. S'il n'y avait pas cette mitzvah de faire Teshuvah, on pourrait faire Teshuvah autant qu'on veut, ça ne marcherait pas. Mais comme cette mitzvah existe, donc Hachem nous en donne la possibilité. Cette possibilité de perfection qui s'affirme ici dans la paracha de Vakel Pekoudé, elle est née dans la Teshuvah du veau d'or, après la faute du veau d'or. Et c'est ça qui est extraordinaire, de penser qu'on peut, atteindre un niveau extrêmement élevé sur le plan spirituel, alors qu'on est parti de rien. Et ça, c'est un enseignement pour chacun d'entre nous. Et au fait, c'est exactement ce que dit la Gemara dans Avodah Zara à la page 6. Elle dit finalement, les Bnei Israël, ce n'était pas un peuple auquel convenait la faute du veau d'or. Pour faire un petit clin d'œil à l'actualité, je dirais, le peuple juif, il vaut mieux que Gad Elmaleh. Et je dirais même que Gad Elmaleh lui-même, il vaut mieux que ce qu'il est en train de devenir là maintenant. Et vraiment, je regrette et je pleure de voir un juif comme ça se commettre dans des choses aussi basses et aussi viles. En fait, Am Israël, c'est un peuple qui a un très haut potentiel sur le plan spirituel. Et il peut monter très haut. Il peut monter très haut. Et il peut revenir de très loin. Et ça, c'est extraordinaire. Alors voilà, c'est un petit clin d'œil sur l'actualité. On peut être parti très loin, on peut revenir, et on peut revenir beaucoup plus haut que même les plus grands tzadikim. C'est ce qu'on doit se souhaiter tous, et c'est ce qu'on apprend dans cette paracha, et c'est ce qui se dit dans cette paracha de Vayikra Pekoudé, qu'on lit avant le livre de Vayikra, donc le livre de Vayikra qui est le cœur même de l'aventure du peuple juif, parce que là c'est le lien de ce qu'on appelle la sainteté d'Am Israël qu'on va explorer tout au long du Sefer de Vayikra. Il faut savoir que la possibilité, donc en tout cas pour Am Israël d'atteindre la perfection, eh ben elle démarre finalement parfois dans des phases qui sont des phases un peu noires, et donc qui sont des phases d'espoir finalement pour tous à rebours, elles sont des phases d'espoir. Jamais rien n'est perdu pour un juif, il peut toujours revenir et il peut aller très très haut.
Rav Mordechai Biton à Jérusalem, je vous remercie. Bonsoir à vous, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom à toutes et à tous.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gay. Bonsoir Rav Gay, Shabbat Shalom.
Bonsoir, Shabbat Shalom.
Rav Gay, alors vous voulez intervenir, on va dire, sur l'ensemble du livre Shemot, et avec un sujet qui rassemble un peu donc toutes ces parachiotes, et qui en tout cas concerne autant le tout début de Shemot et Vayakel, qui est notre paracha de cette semaine, ce sont les femmes. Alors j'espère qu'on ne va pas nous accuser d'avoir résumé les femmes, parce qu'en ce moment c'est très difficile de parler de ce sujet sans déclencher des sensibilités qui, à mon sens, sont probablement passagères, d'autant plus que vous allez nous montrer, d'après ce que je comprends, que la Torah met en valeur la femme, ses valeurs, sa capacité de résistance, ses qualités, et vous avez vu ça dans Shemot. Alors, qu'est-ce que vous y avez trouvé, Rav Gay?
Oui, effectivement. Nous avons donc un livre de Shemot qui va se terminer, qu'on va terminer ce Shabbat, par les deux parachutes de Vayakel et Pekoudé qui seront lus Shabbat matin. Donc, on va terminer le livre qui s'appellerait, on pourrait le sous-titrer, d'ailleurs, il est appelé l'Exode en français, mais en fait, c'est l'Exode et la délivrance. Il s'agit véritablement d'un livre consacré au galout, à l'exil du peuple juif en Égypte, puis après sa sortie d'Égypte, le don de la Torah, et la construction du tabernacle par lequel il se termine. Je voudrais ici parler d'abord de la paracha de Vayakhel, et citer un verset dans la paracha de Vayakhel, où on nous parle du Kior. Le Kior, c'est donc un bassin dans lequel il y a de l'eau, et dont les Kohanim utilisent pour faire les ablutions au niveau des mains et des pieds, chaque fois qu'ils entrent pour faire le service au tabernacle. Et se laver les mains et les pieds. Et on utilisait donc ce kior qui était fait en nechoshet. Nechoshet, c'est du cuivre. Maintenant, c'est écrit dans le texte marot hatsoveot. Voilà les deux termes utilisés. Marot, marot, ça veut dire un miroir. Et tsoveot, c'est un mot tsava. On sait tout ce que ça veut dire tsava. Tsahagana l'Israël, tsahal. Et donc l'armée. Donc, si je traduis mot à mot, c'est le miroir des armées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Rashi sur place explique les choses d'une façon très intéressante. Il nous dit que les miroirs, c'était celles que les femmes qui ont mis en place des armées, on va expliquer ce que ça veut dire, ont offert, donc ces femmes ont offert donc ces miroirs, parce que les miroirs à l'époque étaient faits en cuivre, et ils l'ont offert pour le Beth Amikdash, pour le Mishkan, pour la construction du Mishkan. Et lorsque Moshe a vu arriver ses offrandes, il a dit, mais pas question, à quoi sert les miroirs ? À se faire belle, à se maquiller, donc à exciter le désir chez les hommes. Quel rapport entre cet ustensile, cet outil du Yetzerara, du mauvais penchant, et un endroit qui est kadosh, qui est saint, kadosh, consacré au service divin. Et Dieu lui répond quelque chose d'incroyable. Il lui dit, Elu chavivim alai me'akol. C'est l'offrande que je préfère. Ces miroirs-là me sont plus chers que toutes les autres offrandes apportées pour la construction du tabernacle. Pourquoi ? Parce que c'est les miroirs que les femmes utilisaient lorsque leur mari éreinté, épuisé, après une journée de terrible travail, servitude en Égypte, lorsqu'ils rentraient chez eux le soir, les femmes utilisaient ces miroirs pour se faire belles et pour exciter le désir de leur mari. C'est-à-dire, elles disaient à leur mari, allons-y, faisons des enfants, allons-y, construisons des tzvaot, c'est-à-dire des armées, construisons l'avenir. Et les maris disaient, mais franchement, avoir des enfants dans les conditions dans lesquelles nous sommes, c'est une folie. Ils vont devenir des esclaves, on va peut-être les jeter dans le Nil. On souffre énormément. Stop, arrêtons-nous là. Et les femmes continuaient à vouloir avoir des enfants pour assurer l'avenir du peuple juif. Des femmes qui ne baissent jamais les bras ont toujours l'espoir de sortir d'Égypte. Et qui disaient à leur mari, même s'ils étaient fatigués, allons-y, continuons l'histoire juive. Ne baissons pas les bras. Alors Dieu dit à Moshe, regarde, de ce kior, on prendra de l'eau. Cette eau sera mélangée avec de la poussière et le chapitre, le paragraphe utilisé par la femme Sota, qui est soupçonnée d'avoir trompé son mari, qui devra boire cette potion magique, ce que j'appelle potion magique, c'est ce mélange d'eau et cette chapitre de la femme Sota que l'on trempait dans l'eau. Et elle devait le boire, et si elle avait fauté, elle mourrait rapidement. Et donc, ce miroir, au contraire, c'est l'exemplarité d'une femme, des femmes en général, qui n'ont jamais baissé les bras, qui ont toujours eu l'espoir de sortir d'Égypte, et qui ont su insuffler cet espoir dans leur mari, effectivement, épuisé, éreinté, désespéré. Remonter le moral de leur mari. Et c'est un message pour la femme Sota, cette femme qui s'est détournée, qui a fait la faute, qui a fait commis l'adultère. Eh bien, cette femme, elle doit prendre exemple sur ces femmes-là qui sont restées fidèles et qui ont continué à construire l'histoire juive. Ça, c'est la fin, c'est-à-dire par Parashat Vayakhel, la fin du livre de Shemot. Mais j'ai entendu de mon maître, le Rav Shlomo Volbe, que le début de Shemot, également, parle de deux femmes, Shifra et Pua. Et ces femmes sont convoquées par Pharaon. qui leur dit, mesdames, vous devez mettre à mort les, vous êtes des sages-femmes, donc vous assistez aux accouchements de vos, des juives. Et au moment de l'accouchement, vous vous débrouillez pour simuler un accident et faire en sorte que tous les hommes, tous les garçons, pardon, meurent au moment de l'accouchement. Et ces femmes, elles ont, avec un courage incroyable, bravé cet ordre de Pharaon. Et comme il est écrit dans le texte, elles ont craint Dieu. Et cette crainte de Dieu a dépassé la crainte de Pharaon. Et donc, elles ont résisté à l'ordre de Pharaon et elles sont restées fidèles à leur devoir de mère juive, de sage-femme, et elles ont continué justement à agir de la meilleure façon, de la façon la plus bienveillante. Suite à cet acte héroïque, ces actes héroïques, Akadosh Baruch Hu Hashem s'engage à construire des maisons pour ces femmes, qui vont être la mère pour Yocheved, elle va être la mère de Moshe, le sauveur d'Israël, et Myriam, l'ancêtre de David Améler, du roi David. Tout ça parce qu'elles ont su résister. Et le Rav nous disait, regardez, dans ces quelques premiers versets de la livre de Shemot, il était résumé ce que Hachem attend de nous dans l'exil. L'exil, c'est un pharaon menaçant. Ce sont des forces qui s'exercent sur nous pour nous faire plier, pour nous faire oublier notre attachement à Dieu. Voilà ces femmes, par leur résistance, par leur force de caractère, elles résistent à Pharaon et ainsi mettent en place tout ce qui va être par la suite les ingrédients de la délivrance, la naissance de Moshe et la préparation par la tribu de Yehuda, après de David, de ce qui va être après le Mashiach. Donc on a ici vraiment en résumé ce que doit être un juif dans l'exil. Ne pas baisser la tête, ne pas perdre espoir, rester fidèle à son Créateur et comprendre que la vraie crainte est de ne pas être fidèle à Dieu beaucoup plus que de ne pas être fidèle à un tortionnaire tyran qui nous menace. Voilà ce que Nourav nous a expliqué. Et qui ça? C'est toujours des femmes. Des femmes ont effectivement montré au veau d'or, on en a parlé dans Kitissa la semaine dernière, une résistance que n'ont pas eu les hommes. Elles ont refusé de donner leurs bijoux pour la construction du veau d'or. Les maris ont arraché les bijoux à leurs femmes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Aaron a conseillé de prendre des bijoux, parce qu'il pensait, avec justesse, que les femmes allaient résister, allaient refuser de donner leurs bijoux. Mais malheureusement, les hommes, avec brutalité, ont arraché à leurs femmes leurs bijoux. Donc on voit, dans tout le livre de Shemot, des femmes valeureuses qui résistent et qui ont une force et un courage beaucoup plus grand que celui de leur mari. Donc voilà, je pense, quelque chose qui doit être dit. On commence Shemot par cela, on continue Shemot avec elle, Myriam avec les femmes qui chantent au moment du passage de la mer, on continue avec Titissa, la résistance à ce veau d'or, et on parle d'elle au moment du kiosque, la construction du bassin, fait justement en cuivre, le cuivre à base des miroirs des femmes valeureuses, Marot Atsovot, les femmes qui ont construit les armées d'Israël. Voilà un peu le message que je voulais transmettre. Bravo aux femmes qui nous sommes ici aujourd'hui. C'est grâce à elles que nous avons pu sortir d'Égypte.
Et on va voir après les femmes d'encore. Pareil, toujours la même idée que vous êtes en train de défendre. On raconte une anecdote sur un gadol, je crois que c'est sur le Stapler, mais je parle sous votre contrôle. On lui a montré une photo de lui. Et en lui demandant, vous reconnaissez? Il a dit, je sais pas, mais il ressemble à mon frère. Et c'est parce qu'il s'était jamais vu dans un miroir. C'est une histoire que j'ai entendue comme ça.
Je l'ai entendu un peu différemment, mais c'est toujours la même idée, effectivement. Le Rav ne se regardait pas dans le miroir.
C'est le Stapler ou c'est un autre Rav?
Non, c'est le Stapler, effectivement, qui, lorsqu'on vient présenter sa photo,
ouais,
il a dit, ça a l'air de quelqu'un qui a la crainte du ciel.
Ah, il a dit ça d'abord?
Il ne savait pas qu'on parlait de lui. Sinon, il n'aurait pas effectivement dit cette phrase, mais il s'est dit...
Il ne savait pas que c'est lui, il ne se regardait pas dans les mains. Ah, il a dit, on dirait quelqu'un, on voit que c'est quelqu'un qui craint le ciel, c'est beau.
Voilà.
Ah, c'est voilà. Magnifique. Et après, effectivement, il a dit, mais je crois qu'il ressemble à mon frère.
Voilà, ça, je ne sais pas s'il a dit cette phrase, je n'avais pas entendu celle-là, mais en tout cas, c'est sûr que ce que vous avez dit, j'ai entendu d'ailleurs,
Ah bon, alors d'accord, donc c'est certifié, on a deux Edim, on a deux témoins. Et une fois aussi, on raconte, je ne sais pas si c'est des Gdolim ou si c'est une histoire qui s'est passée dans le Shtetl, c'était trois hommes qui allaient plaider la cause des Juifs auprès de l'homme fort du moment. Alors est-ce que c'est un duc, est-ce que c'est... Bon, je ne suis pas précis malheureusement, c'est l'idée qui va nous intéresser, et ils passent, ces trois hommes, à côté des miroirs qui sont chez le seigneur en question. Et donc, l'un des trois juifs dit « On va réussir. Je viens de voir passer trois anges qui nous accompagnent.
» C'est la génération.
C'est beau.
C'était un peu beaucoup plus loin de ce monde matériel dans lequel nous sommes. Ils étaient des gens extrêmement spirituels, on va dire. Voilà.
Rav Guy, je vous remercie. Et je vous souhaite Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à toute la communauté.
Shabbat Shalom. Voilà, cette émission est à présent terminée. C'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à toutes Shabbat Shalom. Et je vous retrouve à 18h pour un journal qui est enregistré. Excellente soirée à tous.
Shalom leboy na boy, Hashem lo yishmari, shalom shokat shoy me.